Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Alors nous continuons toujours notre petit périple à travers le temps pour cerner de près ce qu'est l'art-thérapie. Et c'est aujourd'hui la troisième émission sur le sujet. Alors la première émission était destinée à poser les bases, savoir de quoi nous parlons en abordant l'art d'une part et la thérapie de l'autre. Et comment allons-nous lier les deux, sachant que l'art-thérapie a pour objectif général d'apporter un bénéfice, un bienfait à une personne dont la problématique est plus ou moins liée à la santé, notamment mentale ou psychique. Et son éventail de possibles s'étend jusqu'au développement personnel, mais nous verrons cela ultérieurement. Alors la seconde émission, nous avons commencé à remonter le temps en partant de l'Antiquité et des observations des philosophes en faveur de l'art, vecteur de bien-être. Et nous avons aussi ouvert les portes sur le monde et sur les traditions étrangères pour souligner le fait que certaines tribus lient déjà pratiques artistiques aux soins, et cela depuis des générations. Et en ce qui concerne nos sociétés occidentales, notamment la France, nous avons démarré notre remontée du temps au moment où s'affirmait la psychiatrie, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, pour observer quelles recherches ont été engagées et quelles autres sciences en ont découlé, notamment la psychanalyse. Et tout ceci pour démontrer dans quel terreau l'art-thérapie a pris racine. Aussi, les travaux sur l'inconscient, notamment à partir de ceux des psychanalystes comme Freud et Jung, et l'intérêt qu'ils ont porté à la créativité et aux artistes, a certainement milité pour que la thérapie avec l'art fasse son entrée dans nos sociétés modernes. Alors cette remontée du temps nous conduit au XXe siècle, au moment où l'art-thérapie va se définir et se distinguer des autres disciplines pour devenir ce qu'elle est maintenant, sachant qu'elle se transforme toujours car elle suit également l'évolution de nos sociétés dites modernes. Alors aujourd'hui nous sommes au XXe siècle, au début des années 20. Alors en 1921, paraît une étude du médecin suisse Walter Morgenthaler sur son patient schizophrène Adolf Wolfi, un autodidacte en art dont la production artistique originale, complexe et impressionnante le questionne. Alors je rappelle que le schizophrène souffre d'une maladie mentale qui engendre une perte de contact avec la réalité. Alors j'ajoute que Adolf Wolfi a attiré l'attention d'artistes, notamment, entre autres, l'écrivain autrichien Rainer Maria Rilke et plus tard, en 1945, celle de l'artiste peintre, plasticien Jean Dubuffet, l'inventeur du concept, d'une certaine manière, de ce que nous nommons l'art brut. Et je vous en ai parlé dans l'une de mes émissions. Et si vous vous souvenez, l'art brut concerne des productions artistiques spontanées réalisées par des personnes sans culture artistique. Et à un moment, l'art brut a été nommé l'art des fous, car c'est beaucoup au sein des institutions, des asiles d'aliénés, que cet art, constitué de peintures ou d'autres matériaux hétéroclites, a émergé. Alors pendant ce temps, le fondateur de la Gestaltung, l'allemand Hans Prinzhorn, publie l'expression de la folie et lance le défi de réunir 5000 peintures d'environ 450 internés de tous les pays européens. Alors la Gestaltung est un mot allemand qui vient de Gestalt et signifie la forme. Gestalten signifie mettre en forme. La Gestaltung est une théorie un peu compliquée à expliquer. Elle concerne la naissance ou la création de formes par le biais de divers moyens correspondant à un langage dont l'expression, notamment plastique, sert à communiquer. Alors Hans Prinzhorn développe le pourquoi et comment et avec qui ces formes s'expriment, et même s'il se réfère principalement au contexte psychiatrique, il en vient à conclure qu'il s'agit d'une pulsion organique de création pulsion qui est inhérente et spécifique à tout être humain, ce qui veut dire qu'il reconnaît son universalité, ce qui veut dire aussi que nous en sommes tous dotés. Alors son travail aura une grande influence sur les artistes, dont Paul Klee, les surréalistes qui font un travail en rapport avec l'inconscient, le rêve, ce qui émerge de soi spontanément, et Jean Dubuffet qui cherchera à retrouver cette spontanéité de la création, cette pulsion primitive dégagée de tout apprentissage, culture ou volonté d'exhibition ou exposition. Alors autant d'intérêts manifestés tant par le corps médical que le milieu artistique, avec des travaux et des recherches pour lier l'art et le médical. Alors pour en revenir à l'évolution de la psychiatrie en lien avec l'art, c'est aussi présenter l'aliéniste Auguste Armand Marie, qui lui aussi, par engouement pour l'art, le premier fit sortir les productions de ses patients de l'institution afin de les exposer en 1927 dans une galerie d'art parisienne près de Montparnasse. Alors en plus d'être amateur d'art et collectionneur, lui-même s'adonnait à la peinture et dessinait. Et apparemment, il a cherché à associer ces deux aspects de son parcours de vie, l'art et le soin. Bon, au fond, nous pouvons dire que ce fut d'une influence positive pour faire émerger la thérapie par l'art au sein de l'institution. Et en effet, et d'après ce que j'ai lu, c'était un monsieur curieux et ouvert sur le monde. Il a beaucoup voyagé dans le cadre de ses études et aussi de son travail de médecin. Et c'est ainsi qu'il s'est aperçu que, par exemple, en Écosse, en asile d'aliénés, un soin particulier était accordé à la décoration et à la bonne influence que pouvait offrir un environnement, un cadre agréable sur les occupants du lieu. Il s'intéressa également aux occupations que pratiquaient les aliénés pour se distraire ou être utile à la communauté. Et aussi, à son retour en France, mais toujours dans le cadre de ses activités médicales, il appliqua ce qu'il avait vu en institution, en apportant néanmoins sa touche personnelle, car il croyait aux vertus positives des activités occupationnelles et du travail sur ses patients. Là aussi, mit-il en place d'ailleurs, et entre autres, des activités de jardinage, de l'archéologie, mais aussi des ateliers artistiques avec peinture, dessin, poterie, etc. Et en outre, il fut le médecin-chef de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne de Paris, et sans doute apporta-t-il sa vision et ses méthodes pour offrir à l'institution des perspectives nouvelles et faire rentrer les activités artistiques dans le milieu institutionnel. Alors c'est le cas du psychiatre Jean Vinchon, qui en tant qu'adepte du surréalisme, bon si vous ne le saviez pas, ben vous le savez maintenant en écoutant les émissions sur l'art de la voie des arts, que c'est un mouvement important du début jusqu'à la moitié du XXe siècle, qui privilégie, je vous l'ai rappelé plus haut, l'imagination, le rêve et les manifestations incontrôlées de l'inconscient. Donc, Jean Vinchon proposera lui, déjà en 1924, l'activité artistique comme méthode thérapeutique dans les hôpitaux psychiatriques et il publiera entre autres « L'art et la folie ». Alors le monde psychiatrique évolue, les aliénés et les fous sont une population que l'on distingue maintenant de celle fragilisée par l'économique ou le contexte social. Le métier d'infirmier en psychiatrie se professionnalise. La psychanalyse, grâce en partie à Sigmund Freud, s'impose de plus en plus, emprunte de nouvelles voies plus en lien avec les fonctionnements de l'esprit humain sans en référer forcément à l'organique ou au physiologique. Et comme Sigmund Freud s'intéressait à l'art, il a porté son regard sur l'artiste et la création. Et d'ailleurs, il a pointé du doigt ce qui était susceptible d'attirer l'attention des psychanalystes sur cette question de l'art en rapport avec les problèmes des patients et les soins possibles. Alors le psychiatre suisse Carl Jung, à mon avis, développera plus profondément des connaissances sur les mystères touchant de près à l'universalité de l'esprit humain ou à l'essence particulière de chaque être. Et en cela, il semble qu'il nous ouvre davantage à une dimension spirituelle qui n'est pas à négliger car bon, il n'est pas le seul. Et aussi, c'est sur ce terrain quelque peu insolite, également glissant pour certains, que le médecin allemand nommé Margaret Hoschka basera ses méthodes pour traiter ces sujets en employant des disciplines et médiums artistiques, mais nous verrons cela plus loin. Alors en parallèle, des psychanalystes comme Anna Freud et Mélanie Klein, plus en lien avec la psychanalyse, elles se pencheront davantage sur la psychologie enfantine et sa problématique. Et aussi, même avec des théories différentes, elles utiliseront le dessin dans leur méthode avec les enfants. Bon, n'oublions pas de faire une part à la philosophie. Et en effet, les philosophes de la fin du 19e siècle puis du 20e siècle ont apporté matière à réflexion en s'interrogeant sur l'esprit et plus particulièrement sur la conscience humaine. Alors l'allemand Hegel, fin 18e, début 19e, porte en effet son intérêt sur la conscience, conscience de soi, conscience de l'autre, le tout relié avec la réalité. Et il présente toutes les connexions de la conscience d'un individu en action dans la réalité du monde qui le porte et l'environne. Et ce sont les prémices de la phénoménologie qui est pour résumer, la science de l'expérience de la conscience. Et celle-ci passe, ben vous l'avez compris, par la conscience de soi, des perceptions en lien avec l'environnement. Alors dans la suite d'Hegel, le philosophe et scientifique du 19e siècle Edmund Husserl reprend la phénoménologie à son compte, auquel il rajoute ses propres développements. Il insistera davantage sur le lien avec l'expérience et au fait de rechercher l'essence véritable des choses et donc de vérifier si ce que l'on croit est ou n'est pas, quel que soit le point de vue duquel on se place. Puis vient le philosophe allemand Martin Heidegger, qui distingue l'existence, la vérité et le sens de l'être par rapport à la réalité des choses qui composent le monde. Et il avance l'idée du Dasein. Alors c'est un mot allemand qui signifie être là. Donc, retour sur soi, sur sa vérité intérieure, que le langage poétique, à son avis, saura révéler. Alors globalement, en phénoménologie avec le Dasein, l'être là, l'être présent dans son environnement avec son histoire, est pris par le souci de son existence et celle-ci est menacée de périssement, c'est-à-dire de mort. Et se maintenir dans le monde est ce qui guide son action. Alors pour résumer et reprendre ce qui est dit sur le Dasein, c'est l'être qui, jeté dans le monde, découvre la mortalité, appréhende le passage et les effets du temps, il en ressent l'angoisse face à la mort mais aussi face à la vie, et cet être qui existe se pose comme une interrogation dans son contexte d'existence. Alors le psychiatre allemand Ludwig Binswanger s'empare de la phénoménologie et innove avec un autre de ses confrères, Médard Boss, grâce à une méthode tirée de ses connaissances, notamment psychanalytiques. Alors, ce qui mobilise ces médecins, c'est d'appliquer la phénoménologie en psychiatrie avec leurs malades. Ce qui veut dire que plus que le symptôme d'une maladie, le médecin va chercher à comprendre un comportement en cherchant derrière une attitude et une façon d'agir d'un patient le pourquoi, dépendant de la conscience que la personne a d'elle-même, des autres, celle-ci étant liée à son histoire personnelle et à ses perceptions en rapport avec l'extérieur. Alors, cette méthode prend en compte plusieurs paramètres et elle intègre plusieurs éléments importants, dont l'histoire du sujet et comment il a tissé sa relation au monde. Et cette méthode, nommée la Dasein-analyse, sera traduite en français par analyse existentielle. Et nous sommes entrés dans le XXe siècle. Alors la phénoménologie élargit ses champs de réflexion et d'action, repris par la communauté scientifique et d'autres tels Merleau-Ponty, etc., porteront leur développement propre. Bon, je ne vais pas énumérer tous les philosophes ni rentrer trop profondément dans les méandres de la phénoménologie, Bon, d'une part parce que je sens que ce terrain sur lequel je me suis avancée n'est pas vraiment le mien, de par sa complexité, et d'autre part parce que je ne bon, je veux pas dire non plus de bêtises. Bon, je me suis cassé la tête, hein, j'évite maintenant de me casser le nez, ce qui est compréhensible, et je laisse aux philosophes, psychiatres avérés, confirmés, phénoménologues, le soin d'apporter les développements qui s'imposent sur ce sujet, qui par lui seul peut faire l'objet de toute une série d'émissions. Cependant, je ne peux pas passer à côté de la pensée de philosophes qui ont certainement influencé la science pour les aider à comprendre les fonctionnements de l'âme humaine, de l'être humain dans sa globalité, et aussi peut-être les ont-ils aidés à distinguer le pathologique, c'est-à-dire ce qui fait mal et pose problème, par rapport à un état d'être globalement en phase avec sa nature intrinsèque. Or, suite à tout cela, il faut bien comprendre une chose, hein, et je pense qu'il faut que ce soit clair, que ce soit le travail des philosophes sur l'être humain qui est soucieux du sens de son existence, animé d'une conscience qui le fait agir et interagir avec le monde, ou qu'il s'agisse du travail des psychanalystes ou psy concentrés, cette fois sur les profondeurs inconscientes, ou celle des médecins psychiatres qui tentent de rétablir un équilibre, une homogénéité entre les diverses fonctions biologiques, mentales, psychiques, jusqu'à l'implication d'artistes aux perceptions exacerbées à cheval entre des mondes différents, eh bien tous ces travaux, qu'ils soient des uns ou des autres, ces réflexions, ces recherches, suivies d'expériences, de découvertes, nous rappellent combien l'être humain est complexe et combien l'art-thérapie est nourrie par tous pour se construire, pour valider son bien fondé et optimiser son champ d'action. Et mon but est bien de dégager les liens profitables à cet art, cette science et cette pratique que nous nommons maintenant l'art-thérapie. Alors, fidèle à ce vieil adage qui dit que Rome ne s'est pas fait en un jour, eh bien l'art-thérapie non plus. Bon, continuons notre chemin au travers du temps. Alors, nous sommes au XXe siècle et nous avançons. Aussi, c'est pour nous rendre compte que l'art-thérapie commence à s'officialiser, c'est-à-dire autour des années 30-40. Et cependant, l'art-thérapie est prioritairement reconnue par l'Angleterre et les États-Unis. Alors, pourquoi est-ce le cas ? Eh bien, en effet, en 1938, on le doit à un artiste anglais, Adrian Hill, qui, souffrant de tuberculose, est placé dans un sanatorium pour y être soigné. Alors, il dessine, il peint beaucoup. Bon, sans doute n'a-t-il que cela à faire dans ce genre de contexte, sauf qu'il finit par constater les effets bénéfiques que son travail artistique produit sur lui, jusqu'à en imputer l'optimisation de sa guérison à son esprit créatif positivement orienté grâce à l'art. Et en 1943, il sort d'ailleurs une première publication sur l'art comme thérapie nommée « Art as an aid to illness », excusez la prononciation, l'art comme aide contre la maladie. Aussi, quand en 1939 la thérapie occupationnelle sera introduite au sanatorium, eh bien Adrian Hill sera invité à enseigner le dessin et la peinture. Et ce sera pour remarquer une amélioration du mental et du psychisme des malades, non seulement pour les tuberculeux, mais aussi pour les blessés de guerre qui y sont accueillis et dont le psychisme et le mental, dans ce contexte guerrier, a été soumis à rude épreuve. Et pour eux, les médecins parlent de symptômes de stress post-traumatique. Et ainsi, leur attention attirée, ils vont se préoccuper de chercher à expérimenter des méthodes de soins innovantes et performantes. Alors, de ces expériences, Adrian Hill publiera deux livres où, pour la première fois, le terme art-thérapie sera mentionné. Et on peut dire que cette discipline de soins est enfin nommée grâce aux Anglais. Alors, en 1946, l'artiste Edward Adamson s'inscrit dans un vaste projet puisqu'il s'agissait d'étendre les bienfaits de la création artistique dans les asiles d'aliénés et les hôpitaux de Grande-Bretagne. Alors Edward Adamson s'applique à plein temps et son implication est d'une influence majeure sur le développement de l'art-thérapie. Et il deviendra d'ailleurs par la suite président de l'Association britannique de thérapeutes par les arts en 1964. Alors en France, que se passe-t-il pendant ce temps où la guerre 39-40 sévit également? Eh bien, c'est pour constater que l'inhumanité de la Seconde Guerre mondiale, s'étendant jusque dans les asiles, eh bien, elle provoquera une forme de régression apte à mettre sous le boisseau tout progrès en matière de développement de soins liés à la santé mentale et psychique. Et la polémique s'installe même sur le traitement des aliénés et surtout après la guerre. Alors pourquoi ? Eh bien, ce serait dû au régime de Vichy et notamment au programme d'éradication des personnes hors normes en cours à l'époque, qui laissent entendre que ceci aurait affecté les asiles d'aliénés. Alors, il y eut et il y a peut-être encore de grandes discussions à ce sujet maintenant, mais le fait est que l'on note à cette époque troublée une mortalité anormalement élevée des pensionnaires dans les asiles due à la famine et à l'abandon. Alors, cependant, certains psychiatres font figure de résistants en prenant des dispositions salutaires pour leurs résidents. Et ce sera le cas des médecins Tocquel et Bonafé, soutenus en ce sens par le poète Éluard, à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban-en-Lozère. Alors pendant ce temps, l'art-thérapie progresse, mais cette fois c'est aux États-Unis. En 1947, la psychothérapeute américaine Margaret Naumberg publie une introduction à l'art-thérapie en rapport avec les enfants et les adolescents. Margaret Naumberg s'est donc aussi intéressée, entre autres, à leur éducation, ce qui fait que dans ses méthodes pédagogiques, elle a inclus l'art et notamment la musique. Bon, elle était bien évidemment motivée par son intérêt pour la psychanalyse, les recherches sur l'inconscient. Et en ce qui concerne les enfants, elle s'est tournée vers les nouvelles méthodes pédagogiques d'enseignement, comme la méthode Montessori, initiée par l'italienne Maria Montessori, l'une des premières femmes médecins en Italie. Et en effet, cette dernière, suite à ses observations, proposait des méthodes éducatives pour résoudre les problèmes de comportement difficiles ou conflits constatés dans les différents milieux éducatifs et sociaux, parce qu'elle estimait que les enfants pouvaient recevoir une réponse éducative plutôt qu'une réponse médicale qui ferait intervenir des médicaments pour régler le problème. Alors cette pédagogie, toujours en cours, basée sur une connaissance pointue des mécanismes infantiles, le respect des rythmes et des besoins de l'enfant permet à celui-ci de grandir harmonieusement en s'appropriant naturellement et activement les connaissances que l'adulte, tel un guide, un tuteur, met à sa disposition. Et Maria Montessori espérait aider à l'émergence de l'adulte de demain, c'est-à-dire le citoyen impliqué, l'être pacifique, autonome, tolérant aux autres parce qu'il serait ouvert au monde. Bon, il y a encore du travail, bon courage. Bon, ceci dit, sa pédagogie s'est propagée puisqu'elle est enseignée maintenant dans de nombreux pays et apparemment avec succès. Et même si elle ne bénéficie pas d'une reconnaissance pleine et entière de la part des institutions d'État, et entre autres de celle de l'éducation nationale française. Donc Margaret Naumberg appliqua avec les enfants la méthode Montessori, s'en inspira pour développer ses propres théories et techniques en introduisant plus particulièrement l'art dans ses méthodes de thérapie auprès de ses patients, quel que soit l'âge, et elle les propagea aux États-Unis jusqu'à fonder à son tour son école, la Walden School. Et Margaret Naumberg est reconnue comme étant la première psychothérapeute américaine à utiliser l'art. Alors, dans ses méthodes, avec ses patients et en règle générale, elle encouragea le dessin spontané, les associations libres, et elle pensait que l'art était le moyen d'extirper les conflits interpersonnels de l'inconscient, de les mettre en évidence et de permettre à la personne concernée de les résoudre. Ce qui signifie que cette mise en lumière avec prise de conscience devait engager la personne sur une voie réparatrice. Et elle croyait en outre que c'était le patient, la personne engagée dans ce processus d'expression créative, la mieux placée pour découvrir le sens caché de ses productions. Alors notez ici l'attitude et la posture du thérapeute, et c'est intéressant de le remarquer, bien différente de celle des psychiatres que j'ai évoquées plus haut. En effet, ici, le thérapeute propose, encourage et accompagne le patient qui trouve lui-même du sens à ses productions. Alors que précédemment, les décennies en arrière, l'aliéniste, le psychiatre, observe son patient et tire lui-même des conclusions, des analyses qu'il fait des productions artistiques. Alors, ce que je comprends là, eh bien, c'est que le patient devient élément actif du processus de sa guérison, et c'est une notion importante à retenir en art-thérapie. Bien, ben, nous allons arrêter ici notre émission. Nous avons cheminé une partie du début du XXe siècle en compagnie de psychiatres, de philosophes, d'artistes, de psychanalystes qui nous ont fait avancer un peu plus sur le chemin qui mène à l'art-thérapie, puisque maintenant nous y sommes entrés, je puis dire, de plein pied, et nous allons continuer. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin et en aussi bonne compagnie que celle de ceux qui font progresser la connaissance pour un bien-être général? Et j'espère que vous êtes de mon avis. Et sur ce, je vous dis donc à bientôt pour la suite de l'art-thérapie sur la voie des arts avec Christine Darboux, qui vous remercie de votre attention. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.